Ah, des fermes.
Bah, des arbres.
Des fermes.
Et des arbres.
L'émission qui parle d'agriculture.
Et de forêt.
Venez découvrir
des initiatives,
des réflexions,
des actions
qui se font chez nous
et près de chez nous. Et c'est sans langue de bois
sur Radio Bartas 107.0.
Bonjour à tous, nous voilà réunis pour une nouvelle émission des fermes et des arbres avec une thématique assez spécifique, Noël. Bonjour Nathalie.
Bonjour Rachel, je suis très contente de faire cette émission spéciale Noël.
Mais de quel arbre allons-nous parler pour Noël ?
Oh là là, du sapin de Noël, vous verrez.
On accueille aussi aujourd'hui Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
Voilà, et ça sera pour la deuxième partie des émissions.
Et nous parlerons de quoi avec Marie ?
Ah ah, ça c'est une surprise, mais d'un nouveau cheptel dans Florac.
D'accord. Eh bien, on va commencer avec les sapins de Noël. Alors, je vais peut-être commencer par un petit historique que j'ai pris sur un site internet. Alors, donc déjà, d'où vient cette tradition ? Donc, ce serait une tradition très ancienne qui est liée au solstice d'hiver, le 21 décembre, et que l'on trouve en Europe du Nord, Allemagne, Autriche et chez les Celtes, donc qui mettaient déjà un sapin. Et au 7e siècle, il y a eu une fusion entre les rites païens et les rites chrétiens. Et donc, ça a été généralisé. Donc, on a des sapins de Noël maintenant dans les foyers français à partir des années 20. Alors, bon, j'en dirai pas vraiment plus parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur la filière sapin de Noël. Il faut savoir qu'on dit sapin de Noël, mais qu'en fait, il y a des sapins et des épicéas la plupart du temps. Et il y a plusieurs variétés. Bon, la plupart du temps, on achète soit un épicéa commun, Picea abies, c'est celui qui sent bon mais qui perd ses aiguilles. Soit un sapin de Nordman, Abies Nordmaniana, celui qui ne sent pas mais qui ne perd pas ses aiguilles. Bon, après, il y a certains qui coupent aussi un pin dans la forêt, c'est un peu comme on veut. Chez ma grand-mère, par exemple, on coupait dans sa haie, on avait un tuyau de Noël. Bon, voilà, chacun fait comme il veut.
Ah, la famille Trémel.
Oui, c'est ça. Et donc, la filière aujourd'hui. Alors, on estime qu'il y a 6,1 millions de sapins de Noël naturels vendus en France. Pour 20,7% des foyers. Et le sapin de Norman est depuis plusieurs années en tête des ventes. C'est 74% des quantités achetées. Alors, où est produit le sapin de Noël ? C'est essentiellement situé dans le Morvan, en Bourgogne-Franche-Comté, qui est la première région productrice avec 1 million d'arbres sur 1500 hectares. Ça représente le quart de la production française. Mais il y a également des productions en Bretagne ou en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le reste des sapins de Noël, environ 2 millions de sapins, doit être importé. Beaucoup d'arbres proviennent de Belgique, 60%, ou du Danemark, 25%. Et pour avoir un sapin de Noël, il faut savoir qu'il faut entre 5 et 10 ans, selon la taille désirée, pour pouvoir produire le sapin, pour obtenir un sapin de Noël. Et cette production est considérée, ça c'est comme une activité agricole. Ça, je l'ai appris parce que je ne pensais pas que c'était une activité agricole, voilà. Et donc, saviez-vous qu'il y avait une association française des sapins de Noël naturels ? Rachel, savais-tu qu'il y avait cette association ?
Mais non, quelle surprise !
Eh oui ! Et donc, l'objet de cette association est le suivant, donc je cite. « Constituée en 1998 pour fédérer les producteurs de sapins de Noël et promouvoir le sapin naturel, notre association, membre de l'Association des producteurs de sapins de Noël de l'Europe de l'Ouest, compte aujourd'hui 130 adhérents. » Il était nécessaire de s'unir pour défendre notre production, pour en assurer la promotion et obtenir un statut du producteur de sapins de Noël afin de normaliser notre activité et d'établir des règles respectées par tous. Donc voilà, donc si vous voulez produire des sapins de Noël, vous pouvez vous rapprocher peut-être de cette association. Et alors donc, on a parlé des sapins en France, mais chez nous, est-ce qu'il y a des producteurs de sapins ? Alors, j'ai appelé un propriétaire, un producteur qui en faisait il y a 25-30 ans sur Chanac et que j'ai pu avoir par téléphone avant cette émission. Donc lui, il produisait des épicéas en vente directe chez les commerçants en Lozère. Ils ont essayé quelques sapins de Norman, mais ça n'a pas pris parce qu'ils ne poussaient pas, au départ. Voilà, ils ont gardé les épicéas. Ils ont planté ces sapins sur une terre agricole où il n'y avait pas de possibilité de faire passer une moissonneuse pour le blé. Donc eux, ils ne savaient pas quoi faire de cette terre-là agricole, donc ils ont planté des sapins de Noël. Et c'était intéressant pour eux financièrement. Par contre, ça a été dur au début. Ils ont planté 4000 arbres au départ, mais beaucoup ont crevé ou ont été mangés par le gibier. Donc, ils faisaient de la vente directe. Et ça, c'était possible parce que c'était il y a 25-30 ans. Il n'y avait pas de normes, pas de déclaration. Le propriétaire coupait lui-même, puis il mettait dans une remorque avec une voiture, puis il allait chez les commerçants, quoi. Il faisait 300 arbres par an et il coupait au fur et à mesure de la demande des magasins. Donc, souvent, il avait 50 à 80 plants par demande et puis il les envoyait, puis au fur et à mesure, les magasins les vendaient. Par contre, ils ont arrêté parce qu'ils avaient également un travail à côté. Puis c'était juste pour s'amuser, voilà, qu'ils faisaient des sapins. Mais aujourd'hui, ça a été arrêté. Mais j'ai quand même fait quelques recherches sur Internet. Et il y aurait un producteur à Montbel, qui est à côté de Mende, Monsieur Almeras. Il s'appelle de son prénom Noël, donc c'est assez drôle quand même, il faut le savoir. Et qui produirait et livrerait un sapin Noël dans les 30 km autour de Mende. Par contre, j'ai pas pu le joindre par téléphone, j'ai pas réussi, donc je sais pas encore s'il livre, donc appel à Monsieur Noël Almeras, si vous livrez encore, rappelez Radio Barthas. Voilà, donc ça c'était les sapins naturels, et vous allez me dire, mais les sapins, il y a des sapins aussi artificiels, certains diront que c'est plus écologique, car on le garde plusieurs années de suite, que nenni. Et donc j'ai vu que donc, l'association des sapins naturels nous indique que le sapin naturel, au cours de sa fabrication, donc, ne nécessite pas de produits d'origine artificielle, quoi, donc pétrolière, je veux dire. Donc, c'est vrai que le sapin artificiel est réutilisable pendant plusieurs années, mais il faudrait le conserver 20 ans, en fait, pour que son impact sur la planète soit plus favorable que le sapin naturel. Donc, on garde rarement, quand même, un sapin artificiel pendant 20 ans. Oui, sauf si on le conserve bien, mais c'est souvent, en fait, la moyenne, c'est qu'on le jette au bout de 4-5 ans, quoi. Donc, vive les sapins naturels. En tout cas, que vous ayez un sapin Nordman, un épicéa, un pin, un tuya ou un chêne vert de Noël, ou rien du tout, eh ben, on vous souhaite de bonnes fêtes.
Voilà. Ah, merci Nathalie. Est-ce qu'on n'écouterait pas une petite chanson assez kitsch de Noël choisie par Nathalie ?
Si, c'est une spéciale dédicace pour une copine. Voilà.
come on and let it show.
Oh, ces petites clochettes, on se croirait sur un traîneau. C'était Billy Mac, Christmas is all around. Et vous êtes bien sur Radio Barthès pour une émission spéciale Noël des fermes et des arbres.
Merci pour cette découverte musicale, Nathalie. Je note ça pour ma playlist de Noël.
Oui.
Merci à tous. Hein. Alors, on accueille aujourd'hui Marie. Donc, rebonjour Marie. Merci d'être venue ici. Donc, petite devinette. Quelle exploitation pourrait avoir Paris ? Donc, elle a un cheptel assez conséquent quand même. Elle est à Florac, commune Florac Trois-Rivières. Et il n'y en a pas beaucoup en Lozère, des exploitations telles que celle de Marie. Et donc, thématique Noël, un produit assez luxueux, enfin, qu'on mange assez rarement, pour des périodes peut-être de fête. Mm-hmm. Moi, j'en ai mangé une fois dans ma vie, c'était à Strasbourg.
Moi, j'en ai jamais mangé, c'est pas
vrai. Ah, alors là, voilà, ça c'est la honte, là. Marie, donne-nous la réponse.
Donc, en fait, moi, j'ai une exploitation hélicicole, donc c'est-à-dire que j'élève des escargots.
Des escargots à Florac.
C'est ça.
Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené à faire des escargots?
Ça va être long si je t'explique tout. J'ai fait un BTS GPN, j'ai fait une licence GENA sur le tard, enfin, à 35 ans, quelque chose comme ça.
À Florac?
À Florac, oui, bien sûr. J'avais le désir de m'installer, je comptais reprendre une exploitation sud du département de la Vienne, qui est l'exploitation de mes grands-parents. Et puis, les choses faisant que... Voilà, ça faisait déjà 3 ans qu'on était là, j'ai eu l'opportunité de trouver un terrain, et finalement j'ai changé mes plans. Et donc, je suis restée à Florac pour faire mon élevage d'escargots.
D'accord. Donc, est-ce que l'exploitation de tes grands-parents, c'était aussi en escargots ?
Ah non, pas du tout. C'était des ovins-viande.
D'accord. Alors, comment on passe d'ovins-viande à se dire « Allez, je me lance dans les escargots ».
Alors, ça peut paraître bizarre, mais moi, donc mon père aussi élevait des agneaux et j'ai participé des fois à monter les agneaux dans le camion pour l'abattoir. Je le vivais pas bien et je me disais que ça serait plus facile d'abattre 100 000 escargots que d'envoyer 2 agneaux à l'abattoir. Je sais pas, c'est peut-être on s'identifie un peu plus
à l'agneau qu'à l'escargot.
Quoique, je dois te dire qu'en fait, on s'attache beaucoup. Enfin, moi, je dois avoir un gros côté sentimental, je sais pas. Mais ça a été difficile, hein, le premier abattage, même s'il n'y en avait pas 100 000, puisque j'en ai abattu 15 000 à peu près.
Alors, en parlant de nombre d'escargots, comment ça se passe une exploitation d'escargots ? Donc déjà, on va se dire que la plupart de nos auditeurs, là on ne parle pas de vaches, on ne parle pas d'agneaux, on n'est pas trop dans des élevages typiques lozériens. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations ? Donc combien d'escargots en moyenne tu as, et aussi quel est tu les fais grandir, qu'est-ce que tu leur donnes à manger, enfin je sais pas quoi. S'ils sont dans ces petites cages, petites maisons d'escargots.
Ils n'ont pas de maison d'escargots, ni de niche, ni d'étable. Donc ils sont dehors, parce que donc, moi ils sont élevés en agriculture biologique, donc ils sont en plein air. Ils sont retenus par un filet anti-fuite sur lequel il y a 4 bandes électrifiées. Donc en fait, ils sont retenus par une clôture électrique, hein, bêtement. Donc quand ils touchent un fil plus et un fil moins, ils se prennent un petit coup de jus et ils s'arrêtent.
Ah, ça ne les tue pas, c'est tout petit.
Non, le but c'est pas de les assassiner à ce moment-là, c'est de les retenir.
C'est un petit court jus comme ça.
Si tu veux, l'escargot, lui, c'est un petit court jus. Moi, je suis pas à sa place. Moi, je me suis pris du jus. Je peux te dire que ça pique. Tu sais rapidement qu'il y a l'électricité dans la clôture. Après, lui, il ne crie pas. Donc, il se met dans sa coquille en général et soit il redescend, soit il tombe. Contrairement aux limaces qui, elles sont une fois, en fait, quand elles sont collées dessus, elles décèdent des suites de l'électrification de leur corps.
Ouf. Donc,
c'est la partie cruelle.
C'est ça.
Mais en fait, si tu veux, c'est un petit... Bon, moi, j'ai commencé petit puisque mon installation principale, c'est l'année prochaine.
D'accord.
Donc là, c'était vraiment un petit parc pour tester le site et me tester moi-même et faire mes propres expériences. Donc là, ça fait 200 mètres carrés. Pour en vivre, on dit qu'il faut à peu près 600 à 800 mètres carrés pour une personne seule en faisant de la transfo. Ça, c'est quand tu ne vends pas en vif, parce que ça peut se faire. Il y a des gens qui élèvent, qui font des plus grosses quantités et qui vont les vendre en escargot vif, hein, en filet, au poids. Donc là, c'est vraiment, si tu veux, j'ai un quart de ce qu'il me faudrait à terme pour en tirer un revenu suffisant. Donc après, ils sont donc dans un parc, si tu veux, il y a d'herbes. Il y a des structures sur lesquelles on met l'aliment. Puisque si on les laissait se nourrir essentiellement des végétaux, ça serait très très long. Donc moi, j'y reçois les escargots après la fin des dernières gelées, donc après le 15 mai. C'est des naissins, donc ils sont microscopiques, ils sont vraiment tout petits. Je ne sais pas si tu as déjà vu un escargot juste sorti de son œuf.
Si, c'est tout. Oui, je pense.
Ouais, translucide, donc petit, voilà. Ouais. Et ils atteignent l'âge adulte en 4 à 5 mois.
D'accord.
Et donc, parce qu'ils mangent de l'aliment. Ouais. Donc c'est une farine, il y a de la févrole, du maïs, etc. Différents, un mélange de céréales, un mélange de vitamines aussi pour qu'ils puissent bien assimiler le calcaire. Et il y a à peu près 40 à 50% de calcaire dans l'aliment, ce qui leur permet de constituer leur coquille.
D'accord. Et le cahier des charges agriculture biologique pour les escargots, en quoi ça consiste? C'est plutôt pour les aliments ou
c'est pour l'aliment, donc du coup il y a un gros surcoût sur l'aliment. C'est sur le chargement, c'est-à-dire que nous on n'a pas le droit de dépasser 250 gros gris. Donc moi j'élève des gros gris, Helix aspersa maxima, qui est une variété de l'Helix aspersa, qui est le petit gris qu'on trouve chez nous. Donc j'ai pas le droit de dépasser 250 au mètre carré. Ils doivent être en extérieur. Voilà, il y a un cahier des charges quand même un peu assez strict, quoi.
D'accord. Et donc il y a beaucoup de variétés d'escargots différentes.
Sur la planète.
Oui, sur la planète.
Sur la planète, je saurais pas te dire combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Après, là en France, traditionnellement, ce qui est consommé, c'est le petit gris, donc qui est l'escargot. Que tu trouves partout et qui ressemble au mien, mais qui reste un peu plus petit. Et on consomme également du Bourgogne, sauf que l'escargot de Bourgogne, donc ça ne s'élève pas. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne en France qui en fait. C'est un monsieur qui a une passion de l'escargot de Bourgogne, mais qui ne fait pas ça de façon rentable, si tu veux. C'est très long à produire, il n'aime pas la surpopulation dans les parcs, etc. Et après, la plupart des éleveurs, ils font du gros gris. Parce que, si tu veux, le Bourgogne, les gens ont l'habitude de manger l'escargot de Bourgogne. Autrefois, on avait le droit de le ramasser, de le commercialiser. Aujourd'hui, c'est interdit en France. C'est-à-dire que tu ramasses tes escargots de Bourgogne, c'est pour toi. Donc, quand tu achètes de l'escargot de Bourgogne dans un supermarché lambda, il n'est pas français. Puisque en France, on a une réglementation qui protège l'espèce, puisqu'elle est, elle a bien diminué. Donc, c'est des escargots de Bourgogne qui viennent des pays de l'Est, en général, où eux, ils n'ont pas de réglementation.
C'est une production intensive d'escargots. Par exemple,
c'est un ramassage.
C'est un ramassage.
C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de ramasser tant qu'ils veulent, okay. A priori. Donc, si tu veux, on se soucie de notre ressource chez nous, mais ça ne nous empêche pas d'importer des escargots qui sont pillés dans leur milieu naturel, dans les autres pays. Donc voilà, donc on élève du gros gris parce qu'il a la taille d'un Bourgogne en ayant la qualité de chair d'un petit gris.
D'accord. On peut sentir l'attachement à tes escargots. Enfin, on sent que c'est important pour toi. Tu leur donnes des prénoms ?
Non, parce que bon, je me suis arrêtée une centaine. Après, je ne les retrouvais pas.
Oh.
Non, si, j'en ai un qui a un prénom, donc qui s'appelle Tortillon. Et Tortillon est particulier, c'est-à-dire que sa coquille, au lieu d'être enroulée sur elle-même, elle est déroulée. Et on l'a gardé, Tortillon est à la maison. Il a l'air un peu malade, et on a toujours l'impression qu'il est mort, mais en fait, il n'est pas mort. Parce que, si tu veux, sa coquille, elle n'est pas assez grosse pour lui, il faudrait que je te montre une photo. Donc, il est un peu... Souvent, il dort la tête dehors, ce qui est assez étrange pour un escargot. Parce qu'en général, quand il a la tête dehors et qu'il a les antennes rentrées, tu dis qu'il est décédé. Mais non, il n'est pas décédé.
Donc, Tortillon est devenu l'animal de compagnie. Il est à l'intérieur de la maison
ou oui, il est dans une petite boîte.
Ah, voilà. D'accord. Ok. Bon, bah, très bien. Ça peut donner des idées. Alors, parce qu'en tant que parent, ça prend moins de place qu'un chien ou qu'un chat.
Ça perd pas ses poils.
Faut pas la litière, pas d'odeur, non.
Moi, j'ai une autre option. C'est-à-dire, mon fils voulait un chien, moi, je lui ai acheté un cactus.
Ça, c'est super. Mais moi, je suis pour ce genre d'initiative.
C'est très, très
de toute
bien.
Façon.
Ça fait pas de bruit et ça prend pas de place. Mais l'escargot, c'est pas mal aussi.
Alors, en termes de commercialisation, où est-ce que tu comptes vendre tes escargots et sous quelle forme ? Produits dérivés
Alors cette année, étant donné que j'ai une petite production, je ne me suis pas affolée sur la commercialisation, c'est-à-dire que je vais les vendre devant le caviste, le bouchon Cévenol, donc bah, ce dimanche.
Aha.
Ce sera le 16, il me semble. Le 16, le jour de Noël aussi, toute la journée, et le 31. Je vais en vendre aussi. Après, je fais sur commande, c'est-à-dire que j'en ai déjà vendu pas mal, les gens, le bouche à oreille, voilà, qui m'en commandent. Il y a des gens qui ont l'air d'être assez accros. Enfin, j'ai un voisin qui j'ai l'impression qu'il mange des escargots tous les deux ou trois jours, hein, Laurent, si tu m'écoutes. voilà, après, le but, moi, l'année prochaine, où je vais vraiment avoir une production conséquente, c'est plutôt d'aller le vendre dans le Gard et sur Montpellier.
D'accord.
Parce que c'est un produit de fête, c'est un produit qui vaut quand même assez cher. Et il faut quand même un bassin de population important pour le vendre. Donc, c'est l'option que moi, je privilégie.
D'accord, mais est-ce que tu vas faire, par exemple, j'ai vu que ça existe, enfin des pots avec par exemple de l'ail, du persil, enfin.
C'est ça. Alors en fait, ils sont vendus donc soit en coquille. Donc cette année, c'est hyper traditionnel. Hein, j'ai fait super simple, comme on dit à la bourguignonne, donc beurre, ail, persil, en croquille. Donc c'est une coquille qui se mange. Qu'elle malheureusement n'est pas en bio, donc ce produit-là, il n'a pas le certificat AB.
D'accord.
Et après, les escargots qui sont soit trop gros pour aller dans une coquille, soit trop petits, et puis aussi pour ne pas faire que de. Enfin, pour varier, ils vont être préparés. Donc en tapas à tartiner, donc mixé beurre, ail, persil avec de l'escargot, ce qui donne en fait le même goût qu'un escargot en coquille, mais tu le tartines sur un toast chaud. Et après en tapas à l'huile avec tomates séchées, piment, cumin, oignon. Voilà, et on verra l'année prochaine pour varier.
Et en tout cas, pour les personnes habitant dans le coin de Florac, le mieux, en fait, c'est de passer commande, parce que...
Le mieux, c'est de passer commande. Moi, je descends à Florac tous les jours, voire deux, trois fois par jour. Donc, je livre, tu vois, je vais en faire une tout à l'heure, une livraison, il n'y a pas de problème. Après, moi, les coquilles et croquis, donc, sont en surgelé. Les autres produits ne sont pas encore prêts, parce qu'on a eu des petits soucis de gilets jaunes qui bloquaient mes approvisionnements.
Qui bloquaient les escargots,
ouais. Dis donc, non.
Oh là là, ils ne s'arrêtent jamais. Hein.
Et puis, le CFPPA, étant donné que c'est là où je transforme, n'était pas trop libre non plus, donc voilà, j'ai eu des petits contretemps. D'accord. Si tu veux, donc là les produits qui vont être autoclavés seront prêts, ils vont être faits la semaine prochaine, donc ils seront prêts fin décembre. Donc d'accord. Là ce que j'ai, c'est du surgelé. Je fais surgelé parce que frais, c'est assez compliqué en termes de logistique, la DLC elle peut pas être de plus de 21 jours.
Date limite de consommation.
Ouais, pardon, excusez-moi.
Oh, non, mais nos auditeurs le savent.
Voilà, et que du coup, si tu veux, moi j'estime qu'un produit frais, enfin mettre frais sur des escargots, même au bout de 4 jours, moi je ne les mangerai pas. Donc là, moi je les prépare et je les surgèle direct, et pour moi, ils sont de meilleure qualité.
D'accord, très bien. Peut-être que tu peux nous donner un numéro de téléphone, une adresse email pour si les gens veulent commander des escargots, comment ils font.
Si les gens veulent commander des escargots, ils m'appellent. Ou il m'envoie un mail, mais enfin, qui m'appelle, c'est plus pratique. Tu veux que je donne le numéro ?
Bah oui, si ça te dérange pas.
Alors 06 31 37 69 34. Après, j'ai une page Facebook, si ça peut intéresser quelqu'un de voir. Il y a des photos du parc un petit peu, etc.
Et donc là, sur la page Facebook, qu'est-ce qu'on tape pour aller sur...
Ah oui, qu'est-ce qu'on tape ?
Parce que...
Alors, tu tapes Nomade des Cévennes. Donc en fait, c'est le nom d'exploitation.
D'accord. Bon, bah alors là, par exemple, si on avait des auditeurs qui sont totalement paniqués, ils ne savent pas quoi acheter pour le dîner de Noël, j'ai envie de dire rendez-vous dimanche ou le jour de Noël.
Voilà, c'est ça. Et je fais le marché de Noël aussi à Florac.
Ou au marché de Noël. Et là, souvent, ça fait plaisir à tout le monde. Des escargots en
entrée. L'escargot, c'est quelque chose que soit on aime, voilà. Soit on n'aime pas du tout. Et souvent, les gens qui n'aiment pas, c'est pas vraiment qu'ils n'aiment pas. C'est qu'il y a une espèce de dégoût, quoi.
Ouais.
Alors, je tiens juste à préciser que moi, les escargots, ils ne sont pas, contrairement à ce que font les gens traditionnellement, et des fois, c'est de là que vient le dégoût, on les faisait baver. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Moi, mes grands-parents, mon père, ils ramassaient des escargots et après ils les mettent dans le sel. Et en fait, donc en tant qu'héliciculteur, nous, on n'a pas le droit de le faire. On doit abattre des escargots qui ne sont pas en extension, donc ils doivent être dans leur coquille. Et cette pratique-là, en fait, c'est une pratique religieuse. les gens oubliaient, mais en fait, c'était autrefois, si tu veux, l'escargot, on n'avait pas le droit, en tant que chrétien, de le consommer. C'était un produit impur. Et quand, avec le carême, les gens qui pouvaient, il y en a qui pouvaient manger du poisson, puis il y en a qui n'avaient rien. Donc l'Église a autorisé aux chrétiens de manger des escargots sous condition de le purifier.
Oh là là.
Donc c'est vraiment purement religieux. Et donc pour le purifier, cette pauvre bête, on le jette dans du sel et il bave. Et les gens te disent, ah mais il faut lui enlever la bave. Mais en fait, tu ne lui enlèves pas la bave, il a mal. Et son seul moyen de se défendre, c'est de baver. Donc c'est de la torture, quoi. Les gens qui font ça, moi ça me révulse un peu. Donc moi, si tu veux, ils sont endormis, ils sont en hibernation dans leur coquille. Et bon, à un moment, il faut bien passer à l'acte. Je les jette dans l'eau bouillante. C'est horrible, mais ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas réveillés. Je n'ai pas le droit de vendre des escargots en extension. Mmh. C'est-à-dire que moi, quand tu prends mon escargot, tu ne vois pas ni sa tête, ni ses antennes.
Là, on est vraiment dans la thématique du bien-être animal. On en parle beaucoup en ce moment. Et ça fait partie... Et alors, juste avant de terminer, une petite question... On en parlait avant ton arrivée. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la bave d'escargot et la crème anti-rides ?
Si, la bave d'escargot est réputée pour avoir beaucoup de qualités sur la peau. Le problème, c'est que à part, je crois, un élevage en France, la plupart des gens qui font... soit ça reste très anecdotique, c'est-à-dire qu'ils font une production d'escargots et ils vont s'amuser à faire à chatouiller leurs escargots pour récupérer un peu de bave et faire des produits. Et donc, ils ont pas, ils vont commercialiser quelques pots. Quand tu trouves des produits à base de bave d'escargot en grosse quantité... dans un volume conséquent, etc. Malheureusement, je dois te le dire, l'escargot, on ne l'a pas vraiment respecté. C'est-à-dire qu'il est... Souvent, c'est de la bave d'escargot, donc qui vient du Chili. Oh. Je n'ai rien contre le Chili. Et qui sont électrocutés jusqu'à ce que mort s'en suive. Et on récolte ainsi la bave. Oh. Donc, garde tes rides et...
Pour l'instant, ça va. Nathalie.
Oh, d'accord, merci.
Sinon, je te propose de te louer un escargot.
Ah non, mais...
Ou de te le prêter même. Et tu te... tu pourrais faire ça.
Système de prêt d'escargot, ouais. Pourquoi pas.
Qui se balade sur le visage.
Non, mais il faudrait monter un petit spa où les gens viennent se... Tu sais, il y en a qui font avec des poissons.
S'il y a des porteurs de projets intéressés par un spa d'escargot, vous pouvez venir nous voir.
Donc moi, je peux louer le cheptel. Voilà.
D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Merci Nathalie.
Merci Rachel. Et puis on se retrouve
à la rentrée. À
la rentrée pour une nouvelle année 2019.
Mais quelle thématique on va faire ?
Oh, une thématique beaucoup plus austère que Noël, je sens.
Si. Allez, au revoir.
À bientôt.
C'était Défermer des arbres.
À retrouver une semaine sur deux, le jeudi à 13h.